Monsieur Aristide Briand-Reboisse, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Kouina.
En décembre 2019, votre parti, le Chrétien Démocrate, vous a investi candidat aux élections présidentielles de 2020. Qu'est-ce qui peut justifier votre engagement à être candidat aux élections présidentielles en Centrafrique?
Depuis 4 ans, la situation de notre RCA nous a tous interpellés. Et donc, chacun choisit sa forme d'engagement. Et je pense que pour avoir contribué à améliorer d'une certaine façon, par ma fonction, que ce soit au niveau de la République centrafricaine en tant que patron de la sûreté nationale et aussi en tant qu'expert auprès de l'Union africaine. Et donc, fort de tout ce que j'avais, je ne pouvais que aspirer, demander la possibilité de faire un peu plus pour la maîtrise de la violence, non seulement en République centrafricaine, mais dans la sous-région.
Vous pensez que vous avez aujourd'hui des atouts nécessaires pour répondre à la situation alors que vous étiez hier aux affaires près du président Bozizé? Pensez-vous que les Centrafricains peuvent découvrir en vous un talent susceptible de répondre aux besoins de la crise?
Je pense que ma tâche auprès du président Bozizé consiste à prévenir les crises et conflits. Et je pense que le travail que j'ai effectué a été apprécié, que naturellement, pas par tout le monde, mais surtout par ceux qui avaient la possibilité d'avoir accès à moi. Je pense au président actuel Touadéra, à l'ancien président Bozizé et à nos forces de sécurité et de défense avec qui on a eu le temps de travailler. Je n'ai pas que des atouts dans la sécurité préventive. Pour moi, c'est un parcours universitaire et professionnel qui m'a permis de mettre accent beaucoup plus sur ça, mais sinon j'ai été formé à d'autres missions, par exemple pour la diplomatie, pour la défense nationale en général, la sécurité alimentaire, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Je pense que j'ai fait pas mal de publications et je suis écrivain, auteur de 2 ouvrages sur la République centrafricaine. Je pense que c'est ça qui mettra un peu de différence entre moi et les autres candidats, puisque je viens pas les mêmes vies, je viens avec un sac rempli d'idées et je pense que ça pouvait servir.
Aline Dao a été le théâtre des affrontements avec le bilan que l'on sait. Quelle lecture faites-vous au niveau du Parti Chrétien Démocrate Centrafricain?
Je pense que le Parti Chrétien Démocrate tient à féliciter nos entités de forces de sécurité et de défense opérationnelle qui n'hésitent pas de donner leur vie pour sauver la République centrafricaine. Le pays a besoin de reconquête et que l'armée doit être présente. Et à la lumière de tout ce qui se passe, je pense qu'à part l'armée centrafricaine, nous ne pouvons faire confiance à personne. J'avais déjà dit sur votre antenne.
Donc vous doutez aujourd'hui de l'appui de la communauté internationale, notamment de la MINUSCA?
25 ans que nous avons la mission des Nations Unies en Centrafrique, donc je ne peux pas, c'est pas question de confiance ou pas, mais je pense qu'il faut juger les gens au résultat. Même pendant la transition, il y avait eu un acquis à l'époque, et nous avons perdu cet acquis sur le plan sécuritaire, et que les villes que vous citez n'étaient pas concernées à l'époque de la transition.
Mais à qui la faute, naturellement?
Moi, je pense que la faute est à partager. D'abord, c'est pour nous tous la responsabilité des Centrafricains et de ceux qui nous dirigent et se sont employés dans la gestion de cette crise, c'est-à-dire le gouvernement, y compris même l'opposition politique, l'Union africaine et les Nations unies qui ont voulu mettre l'État au même pied d'égalité que les rebelles. C'est pour ça que ces choses...
Mais c'est le gouvernement qui a un accord avec les groupes armés.
Vous savez, le premier accord qui me tient à cœur, où le peuple peut témoigner, c'est l'accord où tous les chefs rebelles à l'époque, sans exception, y compris la classe politique, ont tous dit clairement que après le rétablissement de l'ordre constitutionnel, chacun doit déposer les armes. C'est aussi un accord, mais cet accord n'a pas été tenu. Maintenant, aujourd'hui, on parle des accords de Khartoum, qui n'est pas différent des autres accords. Mais qui est le grand bénéficiaire de ces accords? Ce sont les groupes armés. Ils ont tous eu, ils vont toujours continuer à avoir.
Si je vous comprends bien, l'accord de paix du 6 février est un échec.
J'avais dit que c'était des déjà un échec du fait de manque de garantie. Parce que en fait, je vais dire les choses de la manière la plus simple. On aura encore d'autres accords, mais les groupes armés ne changeront pas. Je ne doute pas de la bonne foi du gouvernement. Quand les accords arrivent et quand on arrive à une nouvelle, je dirais, séance présidentielle, mais souvent, ils doivent faire tout pour pérenniser, parce que pour eux, cet accord-là, c'est quoi? Nous avons des groupes armés aujourd'hui qui ne visent plus le pouvoir de Bangui. Parce que tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé leur pays. Ils ont trouvé un pays. Ils cherchent à exister en tant qu'État. Quand ils commencent à spéculer, ils demandent à chaque fois des choses que je dirais pensables, inacceptables. Ils vont te demander d'être ministre de Défense, demander des fonctions régaliennes, etc. Mais le but, c'est toujours après d'obtenir un peu plus jusqu'au pouvoir. Mais là, aujourd'hui, ils ont trouvé un pays. Et dans ça, il y a deux choses à savoir. Le péché aujourd'hui du gouvernement, international, c'est de sous-estimer. Alors qu'il y a deux ambitions diamétralement opposées. Vous avez le calendrier des peuples qui n'a rien à voir avec les calendriers des autres groupes rebelles, et eux là, ils prennent leurs décisions depuis Nigeria, et donc ce qu'ils ont prévu de faire, c'est autre chose, mettre leur califat de Ombomou, Bambomou, Bamingi, Bangoura jusqu'à Vakaga. C'est le territoire qui a été choisi pour eux, donc l'objectif c'est de tout faire pour neutraliser, semer le chaos le plus, chasser l'autorité de l'État, accueillir les fonctionnaires, les cadres politiques aux autorités de l'État à bout de canaux pour semer le maximum de la terreur, implanter un État.
Dans le même chapitre, le député de Bombaré 1, honorable Kabirou, a été chassé par Ali Darassa, sommé de quitter la ville de Bombaré. En quoi cela vous inspire?
C'est des gens qui ne veulent pas de retour de l'État. C'est tout.
Pourtant, il y a le préfet de la Waka qui siège encore dans la localité.
Oui, mais le préfet de la Waka, est-ce que Ali Darassa a demandé son avis? Est-ce qu'il a les moyens de dire non à Ali Darassa? Tu vois? Et quand le préfet va commencer par dire non, ben ça va être pareil. Donc, la seule chose aujourd'hui que je dis, c'est la présence de nos forces de sécurité et de défense. Ce que Ali Darassa dit, à chaque fois, il faut qu'il spécule. L'objectif, c'est pas ça. Il veut personne là-bas. Il veut même ni de la population, ni rien du tout. Tout ce qu'il veut, c'est de faire venir. Là, je vous dis, dans un an, vous allez voir, il y aura au moins 4 millions ou même 8 millions de peuples qui vont venir là-bas. Je tiens à préciser que nous avons nos frères peuples centrafricains qui sont issus du sultanat de Niamnilewa et l'autre qui sont issus du sultanat de Oro-Gafoune. Ce sont nos frères peuples centrafricains qui sont aujourd'hui victimes des autres peuples qui est dirigé aujourd'hui par Ali Darassa.
Pensez-vous qu'aujourd'hui, les garants et les facilitateurs ont une carte à jouer pour stabiliser la République centrafricaine et mettre hors d'état de nuire les groupes armés qui écument le pays?
Je pense que il nous faut jouer la carte de l'unité nationale pour que nous parlions tous de la même voix. Les Nations Unies ne feront pas grand-chose. L'Union africaine n'a pas une armée. Les FACA commencent à reprendre le territoire. Les hommes politiques doivent être unis. Parler de la même chose. Je prends un exemple. Quand il y a eu l'accord de Khartoum, depuis Paris, comme le cas, j'avais intervenu pour dire qu'il nous faut plus de garanties pour signer un accord. Sinon, il fallait tout simplement pas signer. On était parti pour trouver un accord, alors qu'on devrait partir pour négocier en vue d'un accord. Mais à la dernière minute, on s'est rendu compte qu'un accord qui avait été déjà préparé bien avant a fini par être signé. Il n'y avait pas de garantie.
Donc pour vous, c'était une mise en scène?
En partie, oui, bien sûr. Le gouvernement seul ne réussira pas.
Justement, le rôle des politiques dont vous avez évoqué tout à l'heure, nous pensons aussi au retour des anciens présidents, à savoir Michel Diotto, François Bozizé, réceptionné à la présidence. Quelle lecture faites-vous du retour de ces deux anciens chefs d'État?
C'est une très bonne chose. L'ancien président Bokassa a été rentré même sous un faux nom, Soleil Christian. Ça c'est à son tour était rentré quand Bozé, l'ancien président Bozé était encore aux affaires. Et que aujourd'hui, l'ancien président Bozé est revenu. Mais la question, c'est de savoir comment ces deux rencontres ont été organisées et quels sont les bénéfices tirés de cette rencontre pour le peuple français. centrafricains.
Parlant un peu de bénéfices, pensez-vous que avec le discours de François Bozeki n'a pas pu lire, et y compris les accusations contre lui et son parti de KNK d'avoir conspiré contre l'autorité de l'État, pourrait créer les conditions d'une stabilité politique et institutionnelle, sécuritaire aussi, et créer aussi l'environnement propice pour les élections 2020?
Je pense que c'est un climat nauséabond, mais l'être de vœux. Et je voudrais les rencontrer aussi par une demande d'audience qui partira peut-être d'ici la semaine prochaine pour m'entretenir avec eux. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas dire ni spéculer sur ce qui a été dit. Bon, ceci étant, il faut que les spéculateurs doivent se calmer et ceux qui racontent des choses doivent se calmer. S'il y a une accusation, je pense que c'est à la justice de trancher. Mais avant que la justice passe, je demanderai à ces spéculateurs d'arrêter. Pour moi, leur rencontre, naturellement, ne peut être que bénéfique.
L'économie de la République centrafricaine s'est stabilisée à plus de 3,5% en 2019. Quelle est votre lecture et perspective pour l'économie centrafricaine en 2020?
Moi, je pense que c'est des points naturellement positifs pour le pays. Entre-temps, mais il faudrait qu'on trouve un moyen de traduire ça par un acte concret qui peut influencer positivement.
Donc, pour vous, ça reste des chiffres?
Oui, ça reste des chiffres. Ça, naturellement, ça ne peut encourager les investisseurs de tout genre à venir investir en République centrafricaine.
Monsieur Aristide Bouillon-Reboise, je vous remercie.
Merci beaucoup.